VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Merci à Bamako, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Tchad, troisième jour du procès d'une dizaine de militants présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram à N'Djamena. Des accusés arrêtés après le double attentat suicide du 15 juin qui avait fait 38 morts dont 3 kamikazes à la capitale tchadienne. Des détails sur les audiences avec Mekondo Sony, rédacteur en chef de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena, au micro de Timothée Donangmaï.
Le procès est diversement apprécié du fait que ce genre de terroristes, on ne les juge pas comme ça, bien qu'il faut nécessairement passer par la justice. C'est diversement apprécié, mais pour beaucoup de Tchadiens, ils sont toujours touchés par la perte des Tchadiens par rapport à leurs actes.
Et que pense-t-on de l'attitude du chef de ce groupe qui n'exprime aucun remords par rapport aux sanglantes attaques d'N'Djamena?
Apparemment, lui, il dit qu'ils font ça, c'est pour soutenir leur religion. Et de quelle religion il fait allusion, on ne sait jamais, puisque eux, ils tuent tout ce qui bouge, tout ce qui est un être humain. Et donc, c'est vraiment difficile de les comprendre.
Face à cette attitude, que peut-on attendre de la justice tchadienne?
La fin de la session criminelle est prévue pour le 3 septembre. Peut-être que d'ici là, beaucoup de choses vont se changer. Nous sommes en train d'attendre le verdict qui sera prononcé par la Cour spéciale criminelle.
Les attaques de Boko Haram en juin et juillet ont secoué la capitale tchadienne et le Tchad entier. Quel est l'état d'esprit des Tchadiens aujourd'hui?
L'état d'esprit, c'est que les Tchadiens sont toujours sur les qui-vive parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on a affaire à des kamikazes qui peuvent d'un moment à l'autre faire des dégâts. Et donc les gens sont toujours sur les qui-vive et à la méfiance qui règne toujours à N'Djamena.
Comment cela affecte-t-il les activités dans la capitale?
Bon, les activités par rapport à ces événements, les autorités communales ont pris des mesures demandant aux gens d'ouvrir les bistrots, les débits de boissons et autres lieux de distraction de 8h pour fermer les jours ordinaires à 22h et les week-ends à 20h. Et malgré ça, certaines personnes, si j'ose le dire, eux, c'est comme s'il n'y a rien, donc ils se promènent. Par contre, dans d'autres coins, les gens vident les rues à temps.
Mekondo Sony, rédacteur en chef de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena. RDC, une nouvelle campagne de l'opposition appelle à un enrôlement massif de la population pour les prochaines élections. Les explications du député d'opposition Martin Fayoulou, de passage à la rédaction de VOA Afrique à Washington.
Nous avons créé ce que nous appelons la dynamique de l'opposition pour l'unité d'action. Et actuellement, nous sommes en campagne pour exiger l'enrôlement de tous les électeurs avant les élections pour construire un fichier électoral crédible. La constitution est claire et ce que nous demandons, c'est d'aller aux élections, l'élection présidentielle de 2016 et les élections législatives nationales. Et pour cela, il faut préparer ces élections. Donc, nous sommes en train de préparer les élections et nous ne sommes pas d'accord avec les dialogues de M. Kabila qui a pour finalité d'éviter les élections, de violer la constitution et d'obtenir un glissement.
Les opérations d'enrôlement n'ont pas encore commencé. Allez-vous organiser votre propre enrôlement ou comment?
Non, nous demandons à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser cette opération d'enrôlement parce que dans son calendrier global, il est prévu qu'il y aura enrôlement des électeurs. Mais nous demandons que ces opérations commencent dès maintenant pour avoir suffisamment du temps et construire un fichier électoral crédible. Les fichiers électoraux que nous avons actuellement, c'est les fichiers 2005-2011. Ces fichiers sont corrompus. Ces fichiers ont été créés, construits par un organisme qui n'avait pas qualité, qui n'avait pas de compétences, pourrait trouver dans certaines circonscriptions que la circonscription a un siège, mais il n'y a pas d'électeur, alors que vous avez des gens qui habitent dans la circonscription. Les fichiers électoraux, c'est le socle, c'est la fondation des élections, et il faut commencer par là.
Vous accusez le président Joseph Kabila de vouloir éviter les élections, mais il vient justement de publier la loi sur la répartition des sièges, et il précise dans le décret qui a été publié que c'est une preuve qu'il devait amener les Congolais.
Cette loi a été refusée d'abord par l'Assemblée nationale et nous nous sommes convenus avec le président de l'Assemblée nationale qu'on reviendra au mois de septembre à la rentrée parlementaire pour en débattre. Mais on a convoqué une session extraordinaire juste pour ça, parce que M. Kabila voulait à tout prix cette loi. La loi est arrivée au Sénat. Le Sénat l'a refusée proprement. Et on a obligé M. Kengo, président du Sénat, à convoquer une deuxième session extraordinaire successive, contrairement au règlement intérieur du Sénat. Donc c'est une violation flagrante de loi et des règlements de la République.
Le député congolais d'opposition Martin Fayulu, au micro d'Eddie Isango.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le drame des migrants en Méditerranée, un bateau avec environ 300 migrants à bord en route pour l'Italie a coulé hier au large de la ville de Zouara en Libye. Au moins 76 cadavres ont été récupérés et 198 personnes sauvées après le naufrage. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à l'AFP un porte-parole du Croissant-Rouge libyen. Plus de détails avec Michel Joseph.
Un responsable de la sécurité s'exprimant sous anonymat parle de plusieurs centaines de personnes à bord. Selon la même source, plusieurs victimes se trouvaient apparemment dans la cale au moment du naufrage. Un autre responsable et un journaliste basé à Zouara ont confirmé le drame, mais n'étaient pas en mesure de fournir un bilan. Les migrants voyageant à bord du bateau seraient originaires d'Afrique subsaharienne, du Maroc, de Syrie, du Pakistan et du Bangladesh. Situé près de la frontière tunisienne, Zouara est un point de départ majeur pour les passeurs acheminant vers l'Italie les candidats à l'immigration.
Actualité aux États-Unis, 10 ans après que l'ouragan Katrina eut dévasté la Nouvelle-Orléans, tuant 1800 personnes et détruisant 100 000 maisons, le président Barack Obama s'est rendu hier sur place pour saluer le renouveau de la ville. Le point avec Idrissa Sedoudia.
Prononçant un discours dans un nouveau centre communautaire du Lower Ninth Ward, le quartier le plus pauvre de la Nouvelle-Orléans, M. Obama a mis en exergue le redressement et les progrès remarquables après les inondations massives d'il y a une décennie. Vous êtes l'exemple de ce qui est possible quand, face à la tragédie et face à l'épreuve, des gens de bonne volonté se sont unis pour prêter main forte. Brique par brique, pâté de maison par pâté de maison, quartier par quartier, vous avez construit un avenir meilleur. Le président des États-Unis a ajouté que le projet de reconstruction n'était pas seulement de restaurer la ville comme elle avait été, mais comme elle aurait dû être, une ville où tout le monde a sa chance. C'était le 29 août 2005 que l'ouragan avait frappé avec des pluies torrentielles et des vents soufflant à plus de 280 km/h. À la suite de la rupture des digues de protection, plus de 80% de la Nouvelle-Orléans était sous les eaux. Le monde a suivi avec horreur la tragédie. Les rues historiques de la Nouvelle-Orléans, englouties par les eaux, des familles réfugiées sur les toits de leurs maisons, des corps dans les rues, des enfants pleurant et le grand stade de football de la ville, le Superdome, bondé. Les dégâts de Katrina ont été estimés à plus de 135 milliards de dollars, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus chère de l'histoire des États-Unis. De nouveau, le président Obama. Ce qui avait commencé comme une catastrophe naturelle s'est transformé en un désastre causé par l'homme, un gouvernement qui a manqué de prendre soin de ses propres citoyens. Peu après la tempête, rappelle l'AFP, l'ancien président George W. Bush avait décidé de survoler la Louisiane sans se poser. La photo le montrant en train de contempler la zone dévastée à travers le hublot de l'avion présidentiel Air Force One est rapidement devenu le symbole d'une administration déconnectée de la réalité. Une bonne partie de la région du Golfe du Mexique, pas seulement la Nouvelle-Orléans, avait subi des dégâts considérables qui ont amené le gouvernement fédéral à consacrer des milliards de dollars à la reconstruction des communautés côtières. Le président Obama, dont c'était la 10e visite à la Nouvelle-Orléans, a dit que le redressement de la ville est pour la nation un modèle d'innovation urbaine, de réponse aux catastrophes et de résilience.
Et pour terminer la lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest, un sommet des experts sur le vaccin anti-Ebola devrait avoir lieu du 18 au 20 septembre à Conakry, en Guinée. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et aussi notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.